Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. C'est la cinquième saison du Practice RMC, votre podcast golf de référence pour tout savoir sur les meilleurs tournois du monde, les meilleurs joueurs, les meilleurs conseils, le meilleur matériel. Abonnez-vous à notre chaîne podcast, nos partenaires indispensables pour vous proposer ce programme, nos historiques U-Golf, Blue Green et Callaway. Et nous sommes très heureux d'accueillir Garmin dans cette aventure. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, au sommaire de ce sixième numéro de la saison spéciale Players, évidemment, la victoire de Cameron Young après un mano à mano incroyable face à Matt Fitzpatrick, le craquage de Ludwig Göberg, on va en parler évidemment, deux balles dans l'eau en 10 minutes, et puis balance ton golfeur, vous allez distribuer les mauvais points, surtout les mauvais points, après le Players de la Dream Team, aujourd'hui Fabien Donoyan, U-Golf Blue Green, notre prof de golf, Ramucho Artola de Pessac c'est l'endroit, hein. Tu t'appelles pas Ramucho Artola de Pessac évidemment, nos éditorialistes Simon Dutin, Martin Coulon et Romain Fontaine de Garmin. Bonjour à tous les cinq les amis.
Salut les copains.
Hello, hello.
Salut les potos, salut JC.
Et salut les cakes bien sûr.
Dis-moi Simon, Cameron Young, tu me l'avais pas annoncé la semaine dernière en me disant ça c'est ma grosse cote?
Non. Corey Connors.
Ah oui, c'était Corey Connors.
Je te cache pas que j'étais en ligne.
C'est toi?
Ah bah oui, c'était moi. Oui, pour une fois que j'ai un truc bon, merci. Merci de vous en souvenir.
C'est toi qui annonce la victoire de Cameron.
La victoire de Cameron. Pour une fois, j'ai la preuve dans notre groupe commun. Pour une fois que je l'ai. Pour une fois.
Non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à
Martin. À mes arts, exactement. Je suis d'accord.
C'est beau ça.
Ah bah je veux.
Mais t'avais vu le tournoi avant?
Bah non, je l'ai annoncé la semaine d'avant.
Il avait regardé un petit peu les semaines d'avant. Oui, ça va.
Ça s'appelle le French Flair.
C'est pas de l'alchimie non plus.
Qui avait joué au Berg?
C'est moi.
C'était pas bête, hein?
Ah, t'étais très loin.
Ouais, j'étais.
T'as vu, il finit à la cave. Ouais. On va en parler justement dans ce numéro.
Et puis il avait joué sur 54 trous, je crois.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on devrait faire ça. Moi, je le joue jusqu'au quatrième jour, jusqu'au 11. Et après, j'arrête.
Et j'avais joué Connors sur une trentaine de trous et j'étais
pas
loin.
C'est pas mal.
Alors là, si Connors avait planté, ça aurait fait le tour du monde, les copains.
C'est pour ça que toute la France entière, la France du golf, nous écoute.
Bien
parce
sûr.
Que je pense que vous avez tous cité des joueurs qui étaient parfaitement.
On a déjà fait pire dans les pronos.
De gagner. Ah non, mais vous avez été très bon.
Top 3, Xander. Oui.
Bravo.
Ah non.
Moi, j'avais annoncé Morikawa, j'ai bien fait. Laissé juste avant le début du tournoi.
Bah ouais, les vieux, ça se blesse au dos, les vieux.
Et c'est marrant, plus personne ne joue Scotty Scheffler. Mais plus personne.
Bah, il a fait 22e, c'est nul. Ouais, oh là là, c'est nul.
Il y a un joueur aussi, là, je suis un peu.
Mackle.
Ouais, un Irlandais.
McAllendra, oui.
Bah, oui, c'est ouais. Ça. Oui.
Bon, ouais, enfin, qui était blessé au dos,
il
les gars.
Il fera pas grand-chose dans le golf.
D'accord, il était blessé au dos.
Ah, il a failli battre la ligne.
Sérieusement.
Bon, bref, allez.
Oui. On va en parler. Allez, on débriefe la victoire, notamment, de Cameron Young.
S'il le rate, c'est Cameron Young qui remportera ce Players Championship. C'est parti, c'est à droite. Ça touche le bord droit et ça ne rentre pas. Et Cameron Young va donc avoir une pitch net pour signer -13 et gagner le Players. C'est fini. C'est fait. Cameron Young, le New Yorkais, remporte le Players Championship, le deuxième tournoi de sa carrière à seulement 28 ans, mais le plus beau.
Le Practice RMC.
Au commentaire, nos amis de Canal+, évidemment. Oui, le plus beau dans la cour des grands à 28 ans. Cameron Young a donc remporté son second titre sur le PGA Tour. On le disait, hein, le plus précieux, le plus beau, évidemment, le tournoi des joueurs, The Players, sur le magnifique parcours du TPC Sawgrass. L'Américain a devancé l'Anglais Matt Fitzpatrick d'un coup, en prenant pour la première fois la tête du tournoi. Sur le dernier putt, leader des trois premiers tours, Ludwig Göberg a littéralement craqué. On va en reparler dans cet épisode. Le seul Français engagé, Mathieu Pavon, lui, n'a pas passé le cut. Et on en dira un mot aussi. Tout d'abord, un premier tour de table, rapidement. Est-ce qu'on a vécu une grande édition du Players? On attendait beaucoup ce tournoi. On en parlait la semaine dernière. Une grande ou pas une grande édition ou pas?
Bah, vu que j'ai eu le vainqueur en amont, oui, c'était vraiment une super bonne édition dans le sens où il y a eu énormément de suspense. Et moi, le fait que le top 5 se tienne en à peine 4 coups, ça en dit long sur la densité du champ global et de la dureté de ce test jusqu'au bout. Et c'est ça qui était chouette, c'est que quasiment sur les 9, jusqu'aux 9 derniers, tu ne savais pas qui allait gagner. Et tu l'as très bien dit. Le fait que le vainqueur prenne la tête du tournoi sur le dernier putt, ça en dit long sur la dramaturgie de tout ce parcours.
Tout ce tournoi. La dramaturgie a peut-être sauvé le tournoi, parce que je sais où tu vas aller, Fabien. Un petit mot comme ça, Ramucho.
Ah oui, un grand player. Alors qu'on pouvait croire un cavalier seul de M. Hoberg, avec sa maestria des 3 jours, Et finalement, bah, le 11 et le 12, ces décisions stratégiques en ont décidé autrement. Et pour qu'au 9e, à partir du 9e, il y ait vraiment un mano à mano, un vrai match play entre eux.
Quelque part, ça a sauvé le tournoi, le fait que...
Mais ça a plus que sauvé le tournoi.
Et Auberg, je suis désolé, on en parlera tout à l'heure, ça a démarré avant, où on a bien senti...
Que c'était pas sa journée.
Non, c'était pas sa journée, et un détail... que j'avancerai tout à l'heure. J'espère que vous l'avez vu, mais un détail ultra important. Et les deux drives qui ratent, à mon sens, sont liés.
Bon, c'était pas son week-end non plus. Non, il a pas fait un samedi extraordinaire.
Bon, non, ouais. Il a un bois 5 et un drive.
Mais okay. Vous verrez, je vous dirai tout à l'heure.
On y reviendra. Juste le Romain, premier aperçu.
Bah écoute, non, pas. J'ai l'impression que je dis la même chose à chaque fois, mais non, pas un grand tournoi. Par contre, heureusement qu'il y a les 9 derniers trous.
Ouais, deux derniers trous.
Vu, ouais. Et encore. Ouais.
Non, mais heureusement qu'il y a... Moi, tu ne m'as pas demandé, mais je le donne, pardon. Ouais, Romain. On a vécu
j'ai
un grand...
J'ai plus besoin de te demander.
On a vécu un grand tournoi sur les deux derniers trous. Ouais. Mais s'il faut attendre le jeudi matin, 8h, alors 14h pour nous, et 23h30 chez nous le dimanche pour passer un bon moment, et quand... Il y a un truc, c'est très personnel, hein, mais c'est la première fois de ma vie, cette année, où je zappe. Je regarde tous les tournois où je zappe. Enfin, j'ai regardé les élections municipales hier. Enfin, il y a un moment donné, c'est passé devant ma passion pour un des plus grands tournois au monde. Mais on s'est littéralement ennuyé, quoi.
Mais moi, je trouve qu'il y avait aussi un truc sur la distribution. Enfin, tu vois, on voyait pas tous les joueurs qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait quelque chose de.
Non, mais McIlroy, il avait fini depuis longtemps. Hein.
McIlroy, il avait fini depuis longtemps. Mais Xander, qui finit quand même 3, on le voit à peine sur la fin du parcours. Alors que, il finit quand même top 3.
Oui, mais ça, c'est la prod américaine.
C'est la prod.
On a vu Leo Gies tout le week-end, ouais. Alors qu'on n'a pas vu Hovland qui était dans.
Nishoffley.
Mais Xander, on l'a vu un petit peu quand même.
Ah bah si, j'étais dans la partie de Rory McIlroy.
Les trois premiers jours, on l'a vu, Schauffele.
Ah oui.
Hier, on avait peu de raisons de voir Schauffele avant les
et
trois derniers
samedi, tout samedi, il fait un mauvais samedi, mais tout le samedi, on le voit, Xander Schauffele.
Non, mais je parle d'hier, le dernier tour, on aurait pu le voir beaucoup plus souvent.
Ouais, c'est ça.
Franchement.
Il fait pas un score extraordinaire, hier. Il fait pas une remontée.
Il fait moins 2, non ?
Bah oui, il fait pas une remontée extraordinaire.
Mais c'est ça, c'est à l'image de son tour.
Il est podium. Non, mais je trouve que vous mélangez deux choses. Vous mélangez, bon, évidemment, pendant trois tours, il y avait un cavalier seul. Il n'y a pas trop de suspense, mais je suis désolé, la façon dont a joué Auberg pendant trois jours, ben ça cesse de regarder, mais largement, il y a du tee au green,
c'était
absolument parfait, c'était absolument extraordinaire comme niveau de jeu.
Simon Dutin.
Ben moi, je ne suis pas comme les copains, alors peut-être que je ne regardais pas le Players aussi attentivement qu'eux avant, mais moi, c'est une des plus belles éditions du Players qui m'était été donné de voir ces dernières... années, on a ce parcours mythique, c'est lui qui reste la star. Il a prouvé, on en parlait avec Martin juste avant l'enregistrement, que dès qu'il y a un peu de vent, ça reste quand même bête et c'est un parcours qui punit les erreurs, qui récompense les bons shots et qui sacre, on va en parler souvent quand même, un grand champion. Je suis pas d'accord avec Fabien, je pense qu'on n'a pas attendu les deux derniers trous parce que même au 16, même au 15, surtout le retour, tout le back nine, moi je trouve.
Mais tu l'as vu à quelle heure
passionnant.
Tu l'as vu à quelle heure?
Non, mais tu chambres, mais
trou
par trou, il s'est quand même passé beaucoup de choses sur le retour.
Mais tu l'as regardé
en
entier?
J'ai regardé en entier. On pourra reparler de la sortie de bunker de Cam Young au 16 alors qu'il est plugué comme un œuf au plat. Pour moi, c'est là qu'en tout cas il ne perd pas le tournoi. On pourra en reparler alors que c'était avantage Fitzpatrick. Et pour moi le 16 c'est pas un des deux derniers trous. Il y a eu un final, je termine, magnifique. Ça s'est décanté sur le 17 qui est le trou signature de ce parcours. Et je trouve que ça fabuleux. Là encore on pourra en reparler. Il y a eu de la dramaturgie. Et puis Martin parlait du leaderboard. Qui est serré et surtout t'as le retour des mecs cool quoi, les mecs qui s'assoient au fond du bus quoi, tu vois, les patrons du circuit. Quand tu regardes le leaderboard, bah tous les mecs qui sont devant, regarde le leaderboard, à part t'as deux trois poignées de gravier là, des mecs qui veulent s'incruster dans la bande,
lequel dans les cinq joueurs de tête,
ouais.
Parce que c'est une des premières fois de ma vie. Non, attends, c'est une des premières fois de ma vie où le mec il plante le Players. Mais en termes d'émotion, J'ai l'impression qu'il avait battu Jean-Christophe Drouet.
On va reparler de ce mec, mais
en match play. Hein.
Alors, confondez pas tous les mecs. Moi, je vous parle.
D'émotion. Tu parles d'émotion.
Mais non, je parle pas d'émotion, non. Non, je parle de l'identité des mecs qui sont en haut du leaderboard. Il y avait la moitié de l'équipe européenne de Ryder Cup. Il y a Cam Young qui, encore une fois, va tenter de s'inviter dans la bande des mecs cool dont je parlais. Et il y a eu un ou deux jeunes loups là aux dents longues qui tentent de s'incruster et qu'on a un petit peu surmis en valeur à la télé américaine, mais qui joue quand même le feu. Je pense au Jacob Bridgman qui va commencer à emmerder tout le monde s'il continue à jouer comme ça.
Cinquième à moins neuf.
Je trouve qu'on a vécu une édition du Players, en effet, sauvée par cette dernière moitié de dernier tour, mais je trouve qu'on s'est régalé, vraiment.
Ok, bah parlons de Cam Young, alors sa victoire. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément, hormis Martin Coulon qui nous l'avait annoncé la semaine dernière. C'est vrai que ce leaderboard, à un moment donné, on parlait de Ryder Cup. D'ailleurs, même Matt Fitzpatrick sur le 17, où il a été un petit peu chambré ou chahuté, a parlé de Best Page, mais il a dit à côté Best Page, ça n'avait rien à voir. Ça, c'était très gentillé par rapport à Best Page. Mais ça a rappelé des moments de Ryder Cup. Est-ce que c'est. À quel moment Cam Young l'a emporté ce tournoi? Est-ce que pour vous, c'est sur son drive monstrueux du 18?
Non, il a gagné avant.
Mais non, mais il l'a emporté parce qu'il a fait preuve, mais c'est les caractéristiques de son jeu, il a fait preuve d'une patience incroyable.
Il a eu un driving très solide de toute façon toute la semaine.
Enfin, il en a quand même mis 2-3 dans le décor, mais il a accepté certains bogeys.
Ouais, exactement.
Il a accepté de rater. Et puis en
c'est
fait,
pas affolé.
Il l'a gagné sur les deux derniers, mais les autres l'ont perdu avant. Et il fait preuve à chaque fois de patience. Maintenant, moi, je voudrais juste rappeler que Young, il est en folie depuis fin septembre 2025. Hein. C'est-à-dire que le niveau de jeu Et sa capacité sous pression, ça a été le meilleur américain de la Ryder Cup de la Team US, largement. Et en fait, maintenant, il est chez les grands. Il y a aussi un autre point, mais je vais passer le ballon à mes potes. Je pense qu'il y a aussi un truc ultra important qui est arrivé, c'est la TGL. Et la TGL fait que ces garçons se voient différemment, puisqu'ils se voient dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère, auquel j'ai pu assister. Et je pense que quelque part, tout cela, et d'ailleurs de plus en plus, je crois que je vous l'avais mis sur le podcast, c'est eux qui gagnent, c'est ceux qui jouent la TGL, je vous l'ai mis la semaine dernière, qui gagnent les tournois sur le PGA Tour, parce qu'il se passe un truc un peu différent. Et quand tu disais, Simon, ou j'y sais, je ne me souviens plus, pardon, mais Fitz, il a quand même dit et demandé à Cam Young, mais tu me détestes aussi. C'est-à-dire que quand il est sorti du green du 17 pour arriver au 18, il a dû se faire insulter. Et il lui a dit, mais tu rigoles ou quoi? T'es mon pote, on est dans la même équipe en TGL. Et je pense que ça rapproche un peu le... Et c'est bien aussi à terme pour la Ryder Cup.
Justement, on a vu Fitzy aller saluer les parents de Cam Young après la victoire.
Ouais, énorme classe, hein.
Ah bah, Fidji...
Moi, c'est ça qui me manque, tu vois. Tu parlais de la TGL. Quand moi, je dis que je m'ennuie un peu sur ces tournois-là, c'est que... Ce qu'on retrouve à la TGL où il y a l'émotion, il y a sa gueule dans tous les sens et tout ça, tu le retrouves pas en fait sur les parcours, sauf un peu sur la fin où ça s'emballe et tout ça. Et pour répondre à ta question, du coup, moi je pense que c'est Simon qui l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il met un coup de massue sur sa sortie de bunker où on pense qu'il est fini. Et
mais
puis,
non, elle n'est pas compliquée.
Non, gars. Mais il y a l'ouverture. Ah, bah, moi,
Elle était pluguée.
Ouais. Certes, elle était pluguée.
Mais il a 50 mètres.
Il n'y avait pas de but. Il y avait
C'est comme ça. Avait... Mais non, mais...
On est d'accord.
Mais bien sûr, il faut qu'on soit...
La même balle avec
on va essayer de remettre...
but.
Non, mais attendez, les gars.
Là, c'était ouvert devant le green.
Enfin, il n'était pas en bonne position, les gars.
Il n'est pas en bonne position pour faire 4.
Il est sur le green, vous.
Mais il n'est pas en bonne position pour faire 4. Mais il est
pas
type. Mais attendez, les gars. C'est les meilleurs joueurs du monde. Le mec, il est plogué. Ok. Bah alors, si tu veux nous expliquer, pardon.
J'ai rien dit, Fabien.
Bah, t'es pas d'accord. Tu tentes de nous expliquer que c'est un coup difficile. Là, t'as deux enseignants de golf qui sont en train de te dire que c'est pas un coup impossible.
Pour les pros, il est facile, mais excusez-moi.
C'est quoi Cam Young? C'est un pro ou c'est un amateur?
Bon, d'accord.
Juste pour finir, il a de quoi la poser, parce que le problème d'une balle ploguée, c'est la levée. Donc, il a de quoi la poser devant le green qui est dégagé, et un frais avec le spin, elle roule tranquillement.
Le fait qu'il y ait l'eau derrière, parce qu'on sait que... Dans une config pareille, Sepp Straka, alors il n'est pas dans le bunker, mais juste avant Sepp Straka, McIntyre.
Mais il n'est pas dans le bunker, McIntyre.
La position de drapeau de dimanche au 16, elle n'est pas extraordinaire.
Parce qu'en fait, la différence, et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il a fait preuve de patience.
Il n'est pas
con. Il n'est pas con. Il voit que McIntyre... Il est à 8 mètres, 9 mètres. Il a aucun intérêt. Fitzpatrick, tu veux dire. Avec, j'ai dit qui ? McIntyre, pardon. Fitzpatrick, il n'a aucun intérêt d'aller chercher un coup ultra compliqué. Il se dit, tiens, ma balle, elle est pluguée, je la fais voler un peu, ça descend, elle va de toute façon rouler, qu'elle soit 8, 10, 12 ou... Je prends mes deux putts, j'arrive, et c'est exactement ce qu'il a fait.
Il s'en sort les fesses.
Enfin,
il,
ouais. Martin Coulon.
J'aurais tendance à dire qu'il n'a pas été du tout flamboyant, notre cher Cameron Young, mais qu'il a été, comme on dit dans le jargon américain, hyper clutch. Dans le sens où il a fait les coups dont il avait besoin au moment clé où il en avait besoin. Alors, j'avais en tête cette fameuse sortie de bunker au 16, donc je vais m'abstenir. Mais c'est surtout cette fin, c'est ce stadium-là, 16, 17, 18, dans ce moment-là où ça se joue un peu en mode match-play, plus ou moins, et où il faut... C'est pas des coups qui ont l'air très compliqués, au sens le 17, c'est un petit coup de wedge, t'as rien. Mais pour y avoir été à Sawgrass, pour avoir vu du départ ce petit green en île...
Exceptionnel, son petit shot du...
Ok, c'est un coup de wedge, c'est bidon, bidule, mais dans les circonstances, c'est plus le même coup de wedge. En plus, il y avait du vent, qui est un vent différent de tous les autres jours, qui est un vent avec, qui est un vent portant. Il s'est avéré que c'était pile la bonne distance du plein coup de 57 degrés de notre ami Cameron Young. Tant mieux. Il rentre le putt derrière. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé fantasmagoriquement clutch, c'est son drive du 18. Parce que ce drive-là, on n'en a pas trop parlé, mais c'est le plus gros drive qui a jamais été enregistré de toute l'histoire, de tout le Players. Je ne sais pas si tu imagines que le mec, la veille... Il a mis plein bassin son drive, d'accord ? Donc il l'a dans la tronche. Ok, c'est un joueur professionnel, c'est les meilleurs mondiaux, très bien. Mais à ce moment-là, il faut quand même se dire, ok, j'ai ça pour aller chercher le Players. Je suis ex-aequo en tête, j'ai encore un trou, on peut faire le play-off, machin, bidule, mais il envoie une praline. C'est un mec qui tape très très fort et c'est un mec
375
yards. 342 mètres.
342 mètres et c'est le plus long drive de l'histoire.
Mais
sur
au-delà
ce
de ça, moi, c'est au-delà de ce coup-là qui est un coup de grand seigneur, c'est le coup de wedge qu'il y a derrière. Pareil, encore un coup compliqué avec un petit peu de vent, une espèce d'entre-deux qu'il faut doser, machin bidule. Il en a parlé en conférence de presse, Cameron Young. Il ne l'a pas caché. Ce coup-là, il n'était pas évident parce qu'il fallait un petit peu le distiller. Et c'est pour ça, moi, que j'adore ce bonhomme-là, au-delà du fait qu'il ne bronche pas, tu vois, le mec, il n'a aucune émotion. Tu peux appeler ça chiant, ça me fait penser un peu à Scottie Scheffler d'une certaine manière,
mais
c'était pour mes pop-corn à moi, c'est gratuit. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un bonhomme qui, c'est un artiste, quoi. Ça chope dans tous les sens, il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de relâchement, il y a beaucoup de créativité dans ce qu'il fait. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange de puissance absolue, de tirer le bon coup quand il faut, au moment où il le faut, ça c'est grand champion, et surtout... de grands petits de toucher fabuleux là au moment où il faut, quoi, au moment où c'est tendax, quoi.
Mais surtout après, on reparlera de son comportement le parcours parce qu'il en a parlé en conférence de presse.
Il est très très lucide parce que hormis le fait qu'il sort un coup mais d'anthologie dantesque ou ce que vous voulez à ce moment de la partie, à ce moment du parcours avec la victoire en enjeu, il sait très bien que plus au 18 on est long, plus on a une base, une réception large. Tu vois, donc il y a encore cette lucidité. Tu
mais t'as toujours les arbres. Tu te fous les arbres comme c'est
oui, en plus, il la joue. Ouais, mais Fitz, il la bloque un petit peu. Mais lui, il la joue parfaitement droit. Et plus t'es long sur ce trou-là, hormis le second coup plus court, plus tu te laisses une zone de restauration. Donc ça, il faut rester très, très lucide encore après son 12 trous en jouant la gagne pour avoir...
Mais je n'avais jamais vu, depuis le temps que je regarde le player, je n'avais jamais vu un second coup aussi près. Souvent, j'ai l'impression que ce trou est immense.
Parce qu'il avait un wedge en main, mon gars. Et ça aide un peu.
Hein. Ouais, même avec 40 mètres de plus, il aurait eu un wedge en main parce qu'il lui reste 60-70 mètres à faire. Et là où je te rejoins, c'est qu'en effet, après avoir envoyé une praline pareille, il faut quand même la poser dans la bonne zone. Il aurait pu, justement, n'étant pas habitué à cette distance-là sur ce trou, avec en effet le double qu'il avait envoyé la veille, il aurait pu être un petit peu troublé. Il a tapé le shot qu'il fallait. Il a dit, on lui a demandé en effet, mais qu'est-ce qui vous prend ce drive du 18 ? Vous n'avez pas eu peur ? Il a dit, j'ai pensé à deux choses. D'ailleurs, rester dans la ligne de jeu, être concentré sur la ligne que j'avais choisie. Et ouais, et la deuxième chose, il a dit, taper le meilleur coup de ma vie. Mais ça, et on lui a dit, mais pourquoi vous dites pas ça à chaque coup, toute l'année, sur le circuit ? Il dit, non, c'est la première fois que je me dis, il faut que je tape le meilleur coup de ma vie.
C'est en ça
que
je dis qu'il a été hyper clutch.
Et tu dis que c'est un mec chiant. Alors moi, je veux bien, si les mecs dansent pas la Macarena sur le fairway, vous les trouvez chiants. Moi, j'adore ce mec, parce qu'en effet, il a sa gueule de bûcheron. Il a quand même un certain swag, là, avec ses chaînes de hipster. Je trouve qu'il a quand même un flow assez... je sais pas, il dégage quelque chose quand il marche. En effet, il a un body language wedge quasiment neutre, il ne bronche pas, il a jamais l'air content, il a jamais l'air déçu, donc je trouve qu'il a une attitude absolument fabuleuse. Il a, il faut le souligner, un swing signature quand même, il ferait passer Matsuyama pour un épileptique quoi, quand même. Il s'arrête 14 secondes en haut avant de redescendre, et je trouve que Fabien l'a rappelé, c'est lui qui avait mis le feu à Best Page quand même en gagnant son simple, je sais plus qui y bat, mais alors qu'il était rookie, il a à l'intérieur un feu quand même qui brûle. Il secoue la balle comme un sauvage.
Et qu'il a beaucoup embêté sur ses premières années de PGA Tour. Il est trop exigeant avec lui-même. Il l'a lui-même dit. Il avait du mal à se prouver que il pouvait gagner. Le nombre de deuxième places qu'il avait avant de gagner son premier tournoi.
Il n'avait pas perdu le championnat du monde de match play, je crois, contre
Bonne
Burns.
Question, je ne sais
pas
plus.
À Burns, je crois. Il était passé.
Oui, exactement. 92 tournois avant de gagner.
Pas loin. Et en même temps, il a su être. Il a su être patient hier, résilient, parce que, encore une fois, même si la sortie de bunker du 16, elle est facile, il venait quand même de rater une superbe occasion de birdie au 15, alors que tout le monde était en train de lâcher Fitz, Auberg qui venait de lâcher, et Straka qui venait de toucher un canard au 18, énorme, exceptionnel.
Moi, je trouve qu'il a été super intelligent tout au long du tournoi. Il a été régulier. Son coup de bunker, moi je me serais fait dessus, hein, clairement. Donc après je comprends votre point de vue, et c'est vrai que d'un point de vue pro, ça peut se comprendre. Et en effet, vous avez cette analyse que j'aurais pas. Mais et puis là c'était un tournant du tournoi. Il y a tout le monde qui enquillait, ça devenait Haberg, il venait de se planter, les autres qui rentraient les putts, qui faisaient les birdies, ça se resserrait. Donc moi sur cette partie là, juste avant les trois derniers. Là,
C'est vrai qu'il prend le lead. C'est vrai que ça, on lui a parlé de son tempérament sur le parcours, et il a répondu : pourquoi je ne souris pas sur le parcours ? Je pense que si vous demandez à ma femme, elle dira que je suis une personne très très heureuse. C'est la meilleure façon pour moi de jouer mieux. Voilà, d'être un peu éteint.
C'est son style.
Mais c'est pour ça que c'est presque sans que ce soit injurieux.
De ne jamais sourire.
Ouais, mais un peu le clone de Scotty. Il est calme, il aime bien la vie de famille, il est très heureux avec sa femme, avec qui il doit beaucoup. Bon, c'est un peu le discours que tient Scotty. Voilà. Et comme Scotty, il a un petit peu sa marque de fabrique avec cet arrêt incroyable au sommet, comme Scotty avec son talon gauche au finish. Voilà, les deux, ils ont un petit peu le même profil, oui. Bon, pas le même palmarès pour l'instant.
Bon, en tout cas, très belle deuxième victoire sur le PGA Tour de Cameron Young. Je voudrais qu'on parle forcément de Ludvig Åberg. Je pensais qu'on allait en faire 50 minutes. On le voyait évidemment gagner le Suédois, qui a envoyé deux balles dans l'eau en l'espace de 10 minutes, au 11 et au 12. Et justement, on va réécouter comment ça s'est passé avec nos amis de Canal+ sur le 12.
Ouh, choix offensif, l'agent. Driver en main, Ludvig Åberg au départ du 12. On vous l'a dit, seuls deux joueurs sont parvenus à prendre le green avec le driver.
326 yards, c'est faisable pour lui.
Hein. Ah oui, il l'amène avec un gros draw, mais est-ce qu'elle tourne pas trop ? Attention, ça prend la direction de l'eau.
Bassin, j'ai l'impression.
Oh, plein bassin, une nouvelle fois, il est en train de craquer complètement, là, Ludvig Åberg.
Le practice RMC.
Le craquage, j'ai envie de dire les craquages de Ludvig Åberg au 11 et au 12. Comment on peut l'expliquer, quoique tout simplement un craquage, mais j'aimerais avoir votre sentiment, votre avis. Je sais que Simon, ça t'a pas mal alerté, t'avais envie d'en parler, vas-y.
J'avais peur qu'il roule sur tout le monde dimanche et qu'il termine avec 6-7 coups d'avance, qu'on s'emmerde vraiment. Mais je j'anticipais pas... il y avait eu déjà un mauvais, très mauvais drive sur le trou numéro 4. Il n'a pas été extraordinaire samedi, mais il a contrôlé quand même. Et après, il y a ces deux coups, il a dit, deux swings horribles au 11. Et puis après, il y a le drive du 12 qui est catastrophique.
Ben oui.
Mais le coup du 11 qui finit plein bassin, c'est plein bassin, c'est... là, pour le coup, moi, j'en envoie pas mal des shots comme ça, parce que c'est pas comme tous ces coups qui ont fini dans l'eau sur la bordure de la, tu vois, de la.
Oui, où ça joue un mètre. C'est pas
il a prétendu qu'il avait joué ces deux coups très rapidement. Et il avait un rythme.
Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que pour revenir sur le début du week-end, quand même, ce que j'ai vu vendredi de Åberg, entre le score, le 63, et surtout la manière, parce qu'il a cette façon de jouer, on dirait qu'il joue à la PlayStation, Åberg, avec cette rapidité une fois qu'il est à l'adresse, tu vois, c'est le neveu de Snedeker, c'est le cousin beau gosse de Sepp Straka, tu vois, mais quand il est dans la zone, c'est absolument hallucinant. Tu as l'impression qu'il ne peut, pas rater un coup. Et voilà. Et dimanche, on a vu la face immergée de la Berg, si je peux me permettre.
Oui, c'est très bien.
Elle est bonne. Elle est bonne.
Et franchement, le craquage absolu, il l'a reconnu. Voilà, deux swings horribles. Et tu vois où ça peut te mener. Il avait trois coups d'avance. Il se retrouve avec trois coups de retard.
Je te dis, je pense que ça, tu voyais déjà les prémices, malheureusement, de cette manière qu'il a eu d'aborder le quatrième tour, déjà dès le samedi soir. Et il l'a dit en conférence de presse le samedi soir, il faut que je fasse attention, je sais qu'il y a de l'attention, j'ai de l'attention depuis le début de la semaine, je suis en tête, blablabla, 63, nanana, je sais le players, ok, il y a de l'attention. Et le problème que j'ai, et il le dit très très précisément, le problème que j'ai dans ces moments-là, c'est un bonhomme qui va très vite, c'est que je fais tout trop vite. Je marche trop vite, je parle trop vite, tout s'accélère. Et là, tu regardes 10, 11, 12, voire même depuis le 4, parce qu'au 4, grosse loukinque à gauche.
Ouais.
Déjà, grosse alerte. Ah ouais. Premier bogey de la journée, grosse alerte à gauche. Et déjà, ça va vite, quoi. Tu sens que... Et bah, au bout d'un moment, le player, ça reste le player, ce cinquième pageur, si tu veux, si ça t'amuse. Pour moi, pas du tout, mais bon, bref, c'est pas le débat. Et là, clairement, 10, 11, 12, ça va trop vite, quoi. Et clairement, le 12...
Le swing du 12, moi, j'ai...
Des cinq dernières parties, je crois que c'est le seul mec des cinq dernières parties qui prend le driver à cet endroit-là. Et il a dit, oui, ça faisait partie du plan de jeu, mais le vrai plan de jeu, c'était plutôt bois 3, tranquille, comme tout le monde, surtout avec le vent qui était avec sur cette dernière journée.
Et le plan de jeu, tu l'adaptes, non? Enfin, je sais
bah
pas,
oui, mais donc tu l'adaptes en fonction de la situation. Tapis, quand tu viens de te prendre un bogey au 11 avec cette espèce de louquin, ce gros lâcher de faisan qu'il prend, alors que le 11, c'est un par 5 qu'il a dominé depuis le début de la semaine.
Bah oui, mais justement, je pense qu'il a voulu se mettre à l'abri, connaissant les trois derniers trous avec la... Avec, je pense qu'il voyait en tête, donc je pense qu'il a voulu se mettre encore plus en sécurité en prenant des points d'avance, notamment en essayant de faire birdie au 11, qu'il avait déjà chopé. Et donc, il a encore en tête ce bogey 11, alors qu'il était parti pour un birdie. Et malheureusement, là, s'il a un coup à regretter, c'est son drive, et surtout le choix du drive, parce qu'il a voulu, je pense, récupérer son point perdu.
C'est de l'impatience, il y a une espèce d'impatience.
Et je pense que dans son plan de match, il voulait avoir au moins 3 points d'avance avant d'aborder le 16. Parce qu'il connaît la fin du players, avec la tête, avec la pression que cela peut engendrer. Donc voilà, il a fait une analyse qui tient la route au départ. Hein.
Mais pardon, mais ça, vous arrivez à voir ça en ayant regardé beaucoup de parties de golf et tout ça. Mais moi, comme ça, personnellement, à la télé, je ne perçois pas qu'il est dans l'impatience. Et j'ai l'impression qu'il est, suffisamment froid pour gérer ce genre de truc. En fait, je le pensais à l'abri de ça, Fabien.
Déjà, il y a un truc qui est... Ça a été assez furtif, puisque c'est un ralenti de la prod du PGA Tour. Avant ça, il fait une saison très moyenne, avant d'être en tête du Players. Très, très moyenne.
Blessure,
il a joué un peu mieux pendant le Genesis, mais il fait une saison très moyenne. Et on aperçoit un des drives, je ne sais plus si c'est au 3 ou peut-être au 2, je ne sais plus exactement.
Tu parles du dernier jour. Hein.
Oui, je parle du dernier jour. Et il y a son impact au ralenti. Et on voit qu'il la prend pleine pointe. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, la différence entre quelqu'un qui débute puis quelqu'un qui joue au très haut niveau au PGA Tour, c'est le centrage. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est chelou de la prendre autant dans la pointe. Et d'ailleurs, on le voit faire un peu la moue, il comprend qu'il ne l'a pas... Et quand on commence à prendre la balle un peu dans la pointe avec le driver, il y a deux choses qui peuvent arriver. C'est effectivement un bon push à droite, ou alors, parce que je pourrais pas le montrer malheureusement, parce qu'il faudrait des images et surtout il me faudrait un club.
Mais c'est de le
décortiquer. Mais ça referme la tête de club, parce qu'il faut, bon, je peux pas le montrer. Ça pourrait être intéressant de le montrer d'ailleurs un jour. Et moi, je n'étais pas serein pour lui. Parce que quand tu es capable, dès le début de la partie, de la prendre autant dans la pointe, à ce niveau-là, la pression qui arrivait... et en fait il fait des grosses erreurs de centrage.
Ouais.
Et évidemment, qui sont en plus accentuées si on met un peu trop de vitesse, si son chemin de club n'est pas identique à ce qu'il fait d'habitude, ou son choix. Et c'est très étonnant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'interdise un côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je m'interdis d'aller à droite, je m'interdis d'aller à gauche. Et au 12, il vaut mieux la mettre 100 mètres à droite que d'avoir ressenti quand même que je la prenais 2-3 fois dans la pointe et que ça peut arriver de nouveau. Et alors, il l'a joué comme ça, il le sentait comme ça. Moi, je suis personne pour lui expliquer ce qu'il faut faire. Mais on sentait qu'à un moment donné, d'une part avec son début de saison, d'autre part avec cette alerte qu'on a vue, mais vraiment en gros plan du centrage de sa balle, je ne sais plus si c'est 2 ou... non, le 3, c'est un par 3 d'ailleurs. Hein, donc, mais on sentait que ça n'allait pas aller
au bout. Ok, il y avait des signaux, quoi.
Parce que si tu regardes un petit peu plus loin, moi, ça m'a interloqué aussi le fait qu'il rate très fort à droite sur le coup de Boissette au 11 et très fort à gauche sur le drive derrière. Donc tu dis qu'effectivement, il y a un problème de... Tu vois, tu rates des deux côtés, c'est qu'il y a un souci.
C'est rare à ce niveau-là. C'est très rare à ce niveau-là,
surtout sur un mec qui est en chauffe toute la semaine. Et si tu regardes ses stats de driving toute la semaine, petit à petit, ça grappillait vers le bas. Tu vois, tu sentais pas un mec qui était ultra régulier sur justement s'appuyer sur son point fort, qui est normalement son driving. Et tu regardes le nombre de fairways qu'il prend toute la semaine, ça oscille entre...
Il y a eu un petit jeu ahurissant. Il rentre deux eagles en rentrant deux chips.
Et d'un seul coup, tu sens que ça se dérègle le dimanche.
Puis quelque part, avec un peu de pression. C'est un jeune joueur, parce que j'ai entendu hier sur Canal un joueur d'expérience.
Il a 26 ans.
Il a 3 ans de circuit mondial, donc il a quand même une expérience assez petite pour l'instant. Et que le Players, tout le monde bassine en disant c'est le cinquième majeur, je pense que c'est un tournoi que les joueurs veulent épingler à leur palmarès.
Donc c'est ça qu'on oublie quand on le voit jouer, en fait, c'est à quel point il est jeune, ce mec, parce qu'il est grand, il est costaud, il bronche pas, il a un body language pareil très très neutre. Et moi je me demande si en fait cette rapidité d'exécution une fois qu'il est à l'adresse, c'est à la fois ce qui le rend aussi exceptionnel et injouable lorsqu'il est dans la zone.
C'est sa routine.
Ouais, mais je veux dire, cette routine, elle peut être à double tranchant, parce que quand il est dans la zone, il rate pas un coup, mais quand ça se met à se dérégler, du coup, il en a mis partout.
Il y a aussi il y a un joueur dont vous avez parlé la semaine dernière, c'est Shane Lowry. On parle souvent de mental au golf, en disant « ouais, on rate parce qu'on n'a pas le mental ». Mais en fait, c'est pas une histoire de mental, ce qui est arrivé ni à Berg, ni à Shane Lowry. Pourquoi il n'a pas planté? C'est qu'en fait, il fait deux talons. Il fait un talon au 16 et il fait un talon au 17. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, techniquement, dans la manière dont il swing, ils ont quelques trucs qui manquent. Et quand ils sont tout seuls, parce qu'on assimile souvent à Lowry très fort en double, mais là, tout seul pour aller planter un tournoi, techniquement, et là, s'il n'y a pas de mental, il a fait. Et pourquoi il fait ça? Parce que un peu de « il faut que je la mette là ».
Oui, mais est-ce que c'est parce que ça gamberge que sa technique se dérègle
aussi?
Est-ce que c'est un peu
c'est un cercle vicieux, en fait. Je gamberge parce que je sens que... Puis, il y a peut-être des alertes avant, parce que quand on joue, et peu importe le niveau, tu sens bien que 2-3 fois, tu ne la prends pas au milieu de la face, qu'elle va quand même à peu près où tu veux, et tu dis « bon, ouf, celle-là, je ne l'ai pas mise dans le décor ». Mais tu le ressens. Et je pense que 2-3 fois avant... il était un peu en sur-régime et qu'il a dû sentir que... Donc, Shane Lowry est aussi un joueur, un immense joueur de golf, mais techniquement, et on pourrait le dire avec Rory McIlroy, et pourtant, c'est un level bien... c'est pas à chaque fois la sécurité sociale, quoi.
Ok. Je suis surpris que personne n'ait relevé, quand même, justement, dans ces moments très critiques d'une partie qui peut tourner dans le bon sens comme dans l'autre. Là, Ludovic, ça me revient... Ludo Auberg, il est quand même très jeune et son caddie, son équipier, est aussi très jeune. Là, un caddie d'expérience, au 12, s'il va prendre le drive, il doit au moins donner son avis. Alors, peut-être pas l'empêcher, mais au moins donner son avis. Il l'a laissé.
Est-ce que ça veut dire que du coup, c'est une erreur qu'il peut refaire sur un prochain tournoi, ou est-ce que c'est quelque chose...
Il va s'en nourrir, j'espère. Il va s'en nourrir. Mais il a reconnu qu'il avait été impatient. Là, quand même, toi, tu perds un peu en lucidité... Ton partenaire, enfin ton caddie, est là pour hop, te remettre sur le circuit. Pourquoi tu prends le drive?
Ça m'a rappelé la balle qu'il avait mise dans l'eau au 11 à Augusta, moi, au Masters, et où il avait.
Voilà, donc il est. Alors il prend la décision finale, mais je trouve que son conduit aurait pu quand même davantage s'interpeller.
Ok, c'était passionnant de vous écouter sur Ludvig Auberg. On lui souhaite de meilleures fins de partie, évidemment à l'avenir, mais il a tellement de talent que ça devrait bien se passer pour lui. On va continuer cette spéciale Players avec Balance ton golfeur.
Le practice RMC.
Courrête !
Balance, balance !
Mais tu l'emporteras pas dans le trou !
Ça y est, il l'a acheté !
Allez !
Tu l'as acheté !
Balance ton golfeur.
Alors, les mauvais points après ce Players 2026, la 52e édition de ce tournoi. Je veux un nom, quelqu'un qui vous a peut-être déçu durant tout le week-end, ou alors peut-être quelqu'un qu'on n'a même pas vu le week-end, seulement le jeudi et le vendredi. Je veux un nom, s'il vous plaît, les amis. Simon Dutin.
Max Homa.
Et je ne l'ai pas vu ce week-end, moi. C'est bon ça. Romain Fontaine.
Ça sera Scheffler.
Scotty Scheffler. Ok. Vous allez pas me fâcher Simon, hein.
Oh non, ça y est, je...
Martin Coulon. Même toi, tu vas le trouver chiant.
Ouais, il est chiant.
Martin Coulon.
Brooks Koepka, pour moi.
Brooks Koepka, ok. Ramut Chuartola.
Mathieu Pavon.
Mathieu Pavon. Fabien Donoyan.
Bah, mon best poteau, hein.
Rory McIlroy. Bah, tu sais quoi, tu gardes la main. Pourquoi Rory?
Ah, parce que Rory...
On rappelle qu'il est arrivé blessé sur ce tournoi, qu'il a laissé planer le doute jusqu'au bout sur sa participation et que finalement, il a participé aux Players.
Alors, je suis pas à la place ni proche de Rory McIlroy. Maintenant, sur les quatre tours qu'il a fait, il n'y a aucun moment, en tout cas, de ce qu'on a vu. Il s'est étiré le dos, il s'est... je pense qu'il a peut-être une petite alerte. Maintenant... on parlait du drive de Cameron Young au 18, je crois qu'il était juste 10 mètres derrière, ou même 20 yards, enfin, il l'a quand même mis à 320 mètres le drive. Donc, à un moment donné, quand tu as vraiment mal au dos, tu ne drives pas comme il a fait. Non, je mettrais plus sur l'envie, en fait. Parce que, à ce niveau-là, tu rates le premier tour. Deuxième tour, il n'est pas non plus extraordinaire. Mais tu te prépares pour, je pense, son objectif prioritaire à court terme, c'est le Masters. Donc tu te prépares pour te mettre, pour essayer de scorer, pour être... Et moi, j'ai senti un mec qui n'était pas à fond, qui n'était pas présent. En tout cas, il n'avait pas la tête présente au tournoi. Et quelque part, ça me déçoit un peu, parce que j'ai l'impression que Rory, ça l'intéresse uniquement quand il est en contention pour aller prendre la tête, contrairement à un Scheffler qui, malgré tout, se bat pour finir dans le top 20, dans le top 10, même quand il est un peu à côté de ses pompes. Rory finit 51e, il lâche le truc, quoi. Et pour moi, quel que soit le sport, individuel en tout cas, si je vous compare à la F1, si je compare à d'autres sports, tu te bats pour aller donner le meilleur de toi-même.
Mais pourtant, il s'est battu pour passer le cut. Parce que c'était vendredi soir.
Non, je sais même pas s'il s'est battu. Il le fait au talent. Enfin, ce mec-là, il est pas largement. Il est très, très largement au-dessus. Et j'ai même envie de dire presque d'un Scheffler. Intrinsèquement, c'est beaucoup plus fort. Et voilà, j'en fais mon balance ton golfeur parce que je trouve que sa motivation est un peu...
géométrie
okay. variable. Je joue pas, je fais comme je veux, quoi.
Ok, j'ai vu une stat assez hallucinante, ça n'a pas dû lui arriver beaucoup. Bon, il ne s'est pas entraîné donc, sur le parcours, même s'il le connaît parfaitement, mais il ne s'est pas entraîné cette semaine parce que justement il était blessé. Et ça s'est peut-être ressenti sur les greens où il a fait 71e sur 72 au niveau des putts.
Mais ce qui montre parfois c'est un cool, peu aussi l'état d'esprit, parce que ces mecs-là, tu parlais de clutch. Ils savent mettre les putts au bon moment pour se remettre dedans, pour avoir en fait un momentum, faire un eagle, un birdie. Et moi, j'ai trouvé qu'il n'était vraiment pas motivé.
Ok, pas motivé. Mathieu Pavon, pour toi, Ramut Chuartola.
Je suis désolé d'en parler dans ces termes-là, mais bon, je suis déçu surtout pour lui.
Il termine à plus 5. Hein.
Il termine à plus 5, surtout pour... pour lui, parce qu'il avait une belle opportunité à l'obtenir une invitation qu'il n'avait pas volée. Attention, ça valide son très bon début de saison. Donc, il était entré dans un tournoi, un des plus rémunérateurs en gains et en points. Et du coup, il aurait pu marquer des points vachement précieux pour son classement FedEx et pourquoi pas sécuriser quasiment sa carte. Bon, évidemment, son putting l'a trahi. Il finit 119e ou 120e sur tout le champ. Alors que c'était son point fort en début de saison. Bon, mais surtout, je suis déçu par sa gestion. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ses fins de parcours ont été catastrophiques. Le premier jour, alors qu'il revient dans le par, alors qu'il se bat pour revenir dans le par, il finit par 3 bogeys. Et idem, le deuxième jour, il se bat parce qu'il ne joue pas très bien, il ne joue pas très mal, mais il garde son sang-froid. Il revient dans le par et il plante un vieux double au 18. Alors qu'il lui manque 3 points, mais voilà, avec...
Un birdie, il passe. Hein.
Exactement, donc ses fins de parcours, elles sont, moi, je trouve, frustrantes pour lui. Alors qu'il s'était arraché pendant tout le parcours, et patatras, à la fin, il craque, voilà. Bon, voilà, donc c'est dommage parce que du coup, il a reculé. Il est 90e ou 89e maintenant à la FedEx. Et c'est surtout, je suis déçu pour lui par rapport à l'opportunité qu'il avait parce qu'il ne devait pas jouer ce tournoi en début de saison. C'est un bonus. Qui est dommage. C'est un bonus. Bon, voilà, on ne doute pas que cette semaine prochaine, j'espère, il va avoir une réaction au Valspar ou auquel...
Oui, mais c'est important d'en parler de Mathieu Pavon parce que quand même le seul joueur français qu'on a. Alors, Adrien Sadier sur quelques tournois, mais je veux dire, on n'a pas beaucoup de Français sur le Players. La preuve, il n'y en avait qu'un cette année. Donc, forcément, quand on est déçu, c'est important de le dire aussi.
Oui, puis la dynamique aussi, parce qu'il sortait plutôt de perfs qui étaient correctes. Donc, passer le cut, là, déjà, c'est des points, comme le disait Ramucho, mais c'est aussi l'amener dans une dynamique positive pour garder sa carte. Parce que là, cette année, il n'y a plus d'exemption. Hein. C'est où je finis dans les 100.
Ou c'est DP, quoi. Ou c'est retour.
Fred, yes.
Ou Liv.
Je parle pas
il
anglais.
Est encore dedans, il est encore dedans, les gars. Il est encore dedans.
Bien sûr, mais...
Voilà. Mais il joue mieux au golf, quand même.
Ouais, il joue beaucoup mieux. Mais c'est le putting, c'est ça qui est incompréhensible. Ce sport, c'est incroyable. Il a le putting qui tient la route sur les 5 premiers tournois. Et là, c'est ce putting, mais vraiment caricatural, qui le lâche. Mais surtout, là, il doit être très déçu. Il s'est battu, vraiment, quand je l'ai regardé. Il s'est battu pour revenir dans les temps à chaque fois sur les deux jours. Et les trois derniers et le 36e, bam, il craque.
Après, c'est quand même... parfois, on l'oublie, mais c'est pas rien. C'est que c'est quand même un vainqueur sur le PGA Tour.
Bien sûr.
Donc, ça veut dire que ça pourra revenir, recommencer. Et que je pense qu'il a vécu une année 25 ultra difficile dans la tronche. Il a dû aussi essuyer des critiques quand il a changé de coach. Et je pense que c'est pas non plus hyper évident pour lui. Maintenant, moi, ce que je trouve plutôt agréable, c'est qu'il a le niveau pour jouer à...
Clairement.
Pour jouer avec les meilleurs.
Oui, c'est toujours très frustrant en premier lieu pour lui, évidemment, mais on a très envie de le voir jouer tout le week-end, notamment sur un tournoi aussi prestigieux. Je vais aller voir un balance ton golfeur, Scotty Scheffler. Pourquoi Scotty ?
C'est un balance ton golfeur de frustration, encore j'utilise le même mot que Ramucho. Ça m'énerve, j'ai envie de le secouer, j'ai envie de lui dire « mais vas-y, bouge !» Parce qu'en fait...
22 à moins 5.
Hein, ouais, et 22e. Il n'est pas si loin que ça, mais il doit jouer la gagne. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que... je suis là, je suis hyper frustré sur mon canapé à le regarder parce que j'adore en fait les séries, j'aime bien quand les mecs ils surperforment. Comme Nadal, quand il gagne Roland-Garros, il aurait pu le gagner 40 fois, ça m'aurait jamais
ennuyé. Ah oui, jamais déçu, très bien.
Jamais déçu. Jamais. Et donc là, j'avais envie qu'il continue et c'est hyper frustrant. Il joue super bien, il va te faire un trou, tu sais même pas d'où il sort ses coups-là. Et puis après, il te refait un bogey, il revient, il te refait un birdie et tu te dis mais allez, ça va partir, ça va y aller. Et en fait, non. Et ça reste comme ça un peu linéaire finalement. Et puis, voilà, malheureusement, bon, il finit pas trop mal et il finit une 20e ou 22e place. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus haut pour aller chatouiller un peu tout le monde, leur mettre la pression parce que c'est Scotty Scheffler. Et voilà, mais bon, juste j'espère qu'il va revenir et qu'on va le revoir un petit peu jouer les premières places rapidement.
Un mot rapide sur Scotty Scheffler.
Je suis ravi qu'on accueille un Scheffleriste de la frange la plus radicale. Je me sens moins seul également. Bah écoute, oui, après. Je pense que tout Scheffler qu'il est, il y a quand même un petit moment pour digérer tout ce qu'il a accompli et c'est prodigieux, on a cessé de le souligner. Bon voilà, on le répète, ça fait plusieurs semaines qu'on le répète, human after all, les petits problèmes de profondeur et puis au driving cette saison, il faudrait que je vérifie les stats, mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu moins... en pilote automatique sur ses mises en jeu et que ça lui joue forcément.
À chaque fois que je le vois au départ, je suis en stress, je me dis il va la mettre où, tu vois. Je suis plus aussi serein qu'avant.
Moins cannibale en tout cas, c'est vrai sur ces derniers tournois. J'ai un Brooks Koepka là-bas avec Martin Coulon.
Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'être déçu de Brooks Koepka qui a fini 13e du Players Championship en plus en goinfrant un double 18 le dimanche. Le gros naze, quoi. En plus, il aurait pu signer deux top 10 d'affilée, cette andouille. Donc non, désolé les gars, je vais faire un petit contre-pied. Non, je ne suis pas du tout déçu de Brooks Koepka. Je suis même ravi de revoir ce bonhomme-là à ce niveau-là. Parce qu'il en a mangé des couleuvres depuis quelques mois. Malgré sa punition, malgré le cirque médiatique dans lequel il a dû se plonger depuis le Farmers, après son amende, après son mea culpa d'être un dissident du livre vilain, un garnement qu'il est. Moi, je suis vraiment content de le retrouver, lui, le sportif, et de revoir que ce bonhomme-là, il le dit lui-même, il a retrouvé juste un truc fondamental, surtout à ce niveau-là, c'est le plaisir de jouer au golf, quoi. Donc moi, le voir signer une 9e place au Cognizance, à la limite on s'en fout un peu, ceci dit ça reste un top 10, mais surtout cette 13e place aux Players, moi, ça me fait d'autant plus plaisir que ce bonhomme-là, il faut se rappeler que c'est un cannibale de majeur. Alors, évidemment, je sais, la route, elle est encore longue pour qu'il ait de nouveau accès à tous les tournois du Grand Chelem, tout 173e joueur mondial qu'il est aujourd'hui, tout quintuple vainqueur en majeur qu'il demeure. La route, elle est encore longue, mais moi, j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de revoir ce genre de bonhomme-là en Grand Chelem avec tous les meilleurs, vraiment. Et je te dis, cette petite 13e place aux players, malgré ce double pourri au 18, moi, elle me fait un peu plaisir quelque part.
Ok, très bien. On va terminer avec Max Homa. Je ne l'ai pas vu venir celui-là, Max Homa. Qu'est-ce qu'il a ?
Bon, c'est un des joueurs, il finit T32, donc voilà, pas dingo, mais il a fait tellement pire ces dernières saisons. C'est un des joueurs, je trouve, les plus spectaculaires, les plus... au jeu le plus anarchique, le plus erratique du tour. Il peut être... j'ai en mémoire, tu sais, le hat off à la Ryder Cup à Rome, là, quand il enlève la casquette alors que son chip est encore en train de rouler là, pour partager le point contre Hovland et Åberg, alors qu'il joue avec Harman. C'est un des punks du PGA Tour, Max Homa. Jeudi, il envoie moins 1, 71 total. Il fait eagle au 1, qui était le trou numéro 10. Birdie au 2, double au 3, par au 4, bogey au 5, double au 6. Il terminera sa partie par 4 birdies et 1 bogey, donc pour un 71. Le vendredi, c'est pas mieux, c'est eagle au 2, plus 2 bogeys, 2 birdies à l'aller, 4 bogeys, 2 birdies sur le retour. C'est les montagnes russes, donc tu t'ennuies jamais. J'ai souvenir, il y a 2 ans au Masters, pareil, d'une séquence de 7 ou 8 trous où c'était de l'équilibrisme pour sauver des parts sorties de nulle part. Ça peut être un magicien, c'est un mec qui est capable de jouer un golf absolument prodigieux et qui pourtant n'avance plus. Je crois qu'il a plus gagné depuis, je crois que ça devait être le Farmers en 2023, si je ne m'abuse. Et je trouve que son talent mériterait un petit peu mieux. Et lui-même doit, je pense, souffrir beaucoup. Parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, tu sais, il aime bien roaster. Tu peux lui envoyer ton swing à Max Homa et tu lui dis, vas-y, dégomme-moi un peu, critique-moi, chambre-moi. Et il adore se prêter au jeu. C'est un des mecs les plus marrants du tour. Et j'ose espérer que cette 32e place augure, avec ses montagnes russes, de bien meilleurs résultats dans un futur que j'espère très proche.
Très bien. On parle des mecs qui sont 32e maintenant dans ce podcast d'élite. Merci Simon. Merci les copains. Merci pour le débrief de ce Players. On se retrouvera la semaine prochaine, le lundi 23 mars, pour parler des changements du PGA Tour pour 2028. On prend un petit peu d'avance, mais on va absorber ces mesures et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le PGA Tour va dans le bon sens ? Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Salut.
Ciao.
Le Practice RMC.